Copic FM.
Bonjour, c'est le Mag sur Tropic FM. Aujourd'hui, je reçois au téléphone l'artiste de la semaine sur la trentaine, le Conizar Sonit. Sonit, bonjour.
Salut à toi, Michel.
Alors, Conizar n'est pas une insulte, mais le nom des habitants de Cogny, petite bourgade du Beaujolais à quelques kilomètres de Villefranche-sur-Saône. Tu n'es pas originaire du coin pour autant.
Alors certes, ceci étant, je fais une petite correction, c'est-à-dire que j'ai déménagé, tu pouvais pas le savoir. Ah. Je suis maintenant ce qu'on appelle un arlequin, c'est-à-dire un habitant de la commune de La Chassagne.
Ah, qui est où?
Qui est dans le Beaujolais, toujours.
D'accord, bon.
Mais tu pouvais pas le savoir.
Non, tu pouvais pas le savoir, donc j'avais une question par rapport à Cogny. C'est pas loin de Morgan, tout ça. T'es pas loin de Morgan encore, toujours?
Oui, toujours.
Ça m'arrange. Donc, un des dix crus d'un vignoble plus connu le troisième jeudi du mois de novembre par sa piquette que par son bon vin. Je crois savoir que ton autre casquette est la commercialisation du vin pour une grande maison. Tu as choisi d'habiter ce nouveau village pour être plus près des vignes?
Alors, moi, ça fait 10 ans que je suis dans le Beaujolais. J'ai vendu du vin, effectivement, pendant 5 ans et demi, ce qui fait que ça m'a rattaché d'autant plus à la terre, mais... je me suis installé ici pour la musique à la base, avec le groupe avec lequel j'ai joué à l'époque. Et puis voilà, on s'y plaît bien dans cette région, on est à la campagne, au milieu des vignes. C'est un cadre de vie qui est quand même, pour avoir habité à Lyon une vingtaine d'années, plus agréable que celui de Lyon. T'as pas de souci pour te garer. Et puis c'est quand même vachement agréable.
Ouais, bien. Alors on parlait d'origine. Hein. Sonny, t'es un prénom d'origine indienne, ce que trahit un peu ton nom de famille. Il a une signification particulière en français?
Pas forcément, non. Mon nom, oui. Mon nom, ça veut dire prince. Et comme tu peux le savoir, parce que tu l'as remarqué, alors j'imagine que tu le sais, mais les Cumards, c'est un peu comme les Dupont en France. C'est-à-dire que tu en as à chaque coin de rue et ça veut dire prince à la base.
D'accord.
Voilà.
Bien. Alors, quel rapport entretiens-tu avec ce grand pays qu'est l'Inde, à part familiaux, bien évidemment?
Eh ben, à part les familiaux, c'est une identité que j'ai portée toute ma vie, et que je porterai toute ma vie de par ma couleur de peau. Donc, forcément, on y est rattaché parce que dans la, ma mère voulant bien faire arriver en France m'a toujours mis dans le privé et j'ai pu, j'ai pu voir, être confronté déjà à l'intolérance de certains. Et donc, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'assume à 100%. On dit chez nous, il y a comme une chance, il n'y a pas de fruit qui pousse sur l'arbre s'il n'y a pas de racines. Voilà, l'Inde, c'est mes racines, c'est ma ressource, c'est ce qui me donne mon énergie, sans oublier aussi l'autre partie, puisque j'ai grandi ici, donc c'est deux chaises qui font l'équilibre dans lequel je suis assis.
Bien. À quelle place avait la musique chez les Kumars?
Alors, chez nous, bizarrement, on n'a pas de musicien, vois-tu? Je suis le premier de la lignée à faire de la musique, au grand désespoir de ma mère pendant des années. Aujourd'hui, ça l'est moins, mais mais en tout cas, non, je suis le premier. Je crois que c'était une question de destinée. Et voilà, tu vois, aujourd'hui, ça se vérifie.
Bien. Alors, tu as commencé donc très tôt la musique par l'intermédiaire de la guitare classique et le chant. Tes premières influences étaient plutôt celles des artistes étiquetés Woodstock de la fin des années 60. Comment ils ont atterri chez toi?
Ah, ils ont atterri chez moi par les Beatles, déjà à la base. Moi, j'étais un grand fan de Beatles, par le biais de la discographie un petit peu de ma mère. Et puis après, je suis allé plonger un petit peu plus loin. J'ai acheté un vinyle, le vinyle, trois vinyles, jusqu'à avoir la complète. Et puis, je suis allé un peu plus loin pour voir où eux avaient perçu aussi un petit peu leurs inspirations, quelle était la musique de l'époque. Et toute la bande de copains qu'on était a fait en sorte qu'on a fait un gros melting pot de la musique qu'on écoutait et qu'on passait des soirées entières à écouter les Velvet Underground de Nico ou à regarder Woodstock ou à regarder Live at Pompéi des Floyd. Voilà comment c'est rentré chez moi.
D'accord. Alors, ton premier album date de 1992, tu avais 15 ans. À quoi ressemblait ta musique à l'époque?
Oh là, c'était pas très glorieux.
Ah bon?
Ça ressemblait à la musique d'un adolescent en pleine recherche qui n'avait pas encore le grand sens de la construction musicale ni de la construction textuelle, je dirais. Donc voilà, ça ressemblait à de la musique d'un ado de 15 ans, qui était plus dans la sublimation de ce qu'il pouvait jouer que dans la musicalité de la chose, quoi.
Ouais. Alors la suite qui a changé beaucoup de choses chez toi, ce sont des voyages en Inde et en Afrique notamment. Il y a eu comme une révélation sur la direction que tu voulais prendre.
Oui, c'est vrai. Les voyages, on dit que les voyages forment la jeunesse et c'est vrai parce que dans ces pays-là où on dit qu'il n'y a pas grand-chose, on y trouve pourtant beaucoup avec des gens qui nous font relativiser sur le sens de la vie. Sur le bah moi de par l'Inde m'a beaucoup appris par rapport au destin, par rapport à la relativisation des choses, par rapport à se replacer dans un contexte, reprendre de la hauteur, par rapport au fait de légitimiser les choses un petit peu par rapport à ce qu'on a et par rapport à ce qu'on souhaite avoir, ce qui est quand même deux choses bien différentes. Et l'Afrique, quant à elle, m'a donné une vraie direction sur la spiritualité, sur la recherche spirituelle que j'avais au moment où je suis parti. C'était sensiblement en 95-96. Et m'a ouvert les yeux aussi sur pas mal de choses, et dans ce sens-là, parce que finalement, l'Inde et l'Afrique sont deux pays bien différents, mais qui au final ont beaucoup de points communs.
Mmh. Alors, la découverte des percussions a joué aussi beaucoup chez toi pour la suite de ta vie musicale et artistique?
Complètement, oui. J'ai eu la chance de rencontrer à Lyon un professeur de percussion qui m'a porté beaucoup dans ma vie, qui s'appelle Moussa, que je cite avec grand plaisir, et qui a été plus qu'un professeur, qui est un grand frère pour moi. Et avec qui j'ai fait beaucoup de choses, de la danse, des cours de danse, où à chaque fois la percussion est une manière de se poser différent dans un contexte différent. Et puis j'ai concrétisé ça par un voyage en Afrique chez lui, donc dans un village de griots, pour faire 6 heures de percussion par jour, et où là évidemment encore un autre sens, dans le sens où on se perd. C'est pas notre culture, on s'aperçoit qu'on vit pas avec, qu'on n'a pas la foi qui fonctionne avec. Alors on a beau donner tout notre mal et apprendre au mieux possible, on n'aura jamais la culture, puisque c'est la leur, hein, la culture de la tradition orale. Et voilà, en ce sens-là, ça m'a vraiment beaucoup appris et c'est sûr, a beaucoup influencé ma musique aujourd'hui.
Mmh. Alors là, la suite, c'est ta présence au sein de différentes formations de Jarama et Matt Jimitis, dont tu fus le chanteur pendant 7 ans. C'est avec cette dernière formation que le reggae a vraiment pris place dans ton univers, ou déjà avant, ce genre musical t'attirait?
Ah, déjà avant, ça m'attirait beaucoup. Sauf que je n'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Ce qui me permet aujourd'hui de me placer différemment dans ce style-là. C'est-à-dire que les puristes de reggae vont dire que je fais pas du reggae, les puristes de la chanson diront que je fais pas de la chanson, et moi j'aime à dire que je fais du reggae à texte. Donc, c'est-à-dire que voilà, je me revendique pas jamaïcain. Je parlais de culture avec l'Afrique, je parle de la même chose par rapport au reggae. Je veux pas faire d'imitation sur une culture que je n'ai pas. Donc, je fais un reggae qui est identitaire, qui est dans le mien, et comme on disait tout à l'heure, où se retrouvent aussi beaucoup des influences, des inspirations musicales qui m'ont construit. Aujourd'hui, tu prends des morceaux comme Future, par exemple, si tu as pu écouter un petit peu, on a un solo très rock'n'roll. Si tu prends un morceau comme Crazy, on a une intro qui est limite Pink Floydienne. Si tu prends Under the Stars, qui est le premier morceau de l'album, on a un morceau qui fait un peu penser à George Harrison. Donc voilà, tout ça. Compacteur du reggae à proprement dit, bien que je l'aime beaucoup et que je respecte ceux qui le font, mais en tout cas nous c'est pas notre truc, on est en France, on fait du reggae français et on fait surtout du reggae qui va parler à tout le monde, quoi.
Ouais. Je te confirme, j'ai écouté un petit peu tes chansons quand même, je te confirme. Alors en 2007 tu reprends la route avec un nouveau quintet, un Soul Roots. Alors pourquoi avoir décidé en 2010 de partir sous ton nom Sony? Tu ne voulais plus dépendre de personne pour avancer, tu voulais défendre ton projet à ta façon?
Il y avait un petit peu de ça, il y avait un peu de déception sur les groupes nés, parce que Magic Mutis, c'est pas moi qui le menais vraiment de fond, bien que j'y participais quand même beaucoup. Mais disons que oui, il y avait une volonté de pouvoir faire mes morceaux sans être bridé, une volonté de pouvoir gérer mon groupe comme je l'entendais, et puis aussi une volonté de souvent dans les groupes dans lesquels j'ai joué, on faisait croire bon an mal an qu'on était une famille, un peu comme on dit dans le reggae, one love, unity, one family. Et puis au final, on s'apercevait que il y avait des gens qui piochaient dans la caisse, ou les gens qui nous parlaient de bonnes intentions au départ, qui détournaient un peu d'argent, qui étaient finalement pas si honnêtes que ça. Et simplement parce qu'on partait sur le fait de tous s'investir dans une coalition, je dirais, volontaire. Et puis un jour, à maturité, je me suis aperçu que dans tout projet, il faut un chef. C'est pas pour autant que je suis un dictateur. Je laisse la proposition, je laisse la place à l'ouverture. Mais au-delà de ça, tout le monde sait où on va et c'est important. Comme...
D'accord. Alors, tu es allé enregistrer au réputé studio La Hacienda à Tarare. Tu t'y es pris en deux fois. Tu avais peur que les premiers enregistrements ne te plaisent pas avec le temps. Tu cherchais encore ton son à l'époque.
Eh ben, tu sais, je vais faire une comparaison. C'est un petit peu, moi qui ai travaillé dans le vin, c'est un petit peu comme quand tu vas faire une dégustation de vin. C'est-à-dire que le premier vin, tu vas le goûter, l'apprécier, tu arrives au 15e, tu as le palais qui est un petit peu fatigué. Et les sens qui sont un peu moins exacerbés, qui sont un peu plus exacerbés. Donc, tu veux, la musique, c'est un petit peu pareil. Et c'est comme toute chose. Il faut pouvoir prendre du recul à un moment donné sur ce que tu as fait, laisser reposer les oreilles, y oublier quelque temps. Et c'est pour ça un petit peu qu'on a fait deux sessions. Une première session, on a fait tous les enregistrements, pratiquement tous les enregistrements avec les voix de chant en témoin. Et puis une deuxième session, je voulais avoir quand même la possibilité de pouvoir revenir sur des chants leads, de pouvoir changer des textes, de pouvoir changer des paroles, et puis d'avoir tous les oreilles reposées pour pouvoir y écouter tranquillement et avoir du recul sur les choses.
Le résultat, c'est la sortie le 15 juin 2012 de ton premier album Sous ton nom, Le temps fait son affaire. Alors, quand je parle de premier opus, tu as parfois l'impression qu'au bout de 20 ans, c'est ton premier véritable album, du moins celui qui te ressemble le plus.
Alors voilà, oui, on peut dire ça, bien que ce ne soit pas ma première participation sur un album, mais voilà, aujourd'hui, c'est le premier pied à l'étrier, on va dire, d'un projet abouti, réfléchi, travailler avec des gens qui ont vraiment un niveau professionnel digne de ce nom, mais qui sont pourtant d'une humilité exemplaire. Et puis, oui, c'est le premier projet qui est vraiment abouti, signé en maison de disques, distribué nationalement avec une attaché de presse, avec une maison de disques, avec un tourneur, un producteur. Et donc, oui, vraiment, c'est le projet le plus abouti pour l'instant et c'est la première marche de... Enfin, c'est la première marche de mon deuxième étage, on va dire, et il en reste encore quelques-uns.
Alors, le morceau « Le temps fait son affaire » a fait penser à la célèbre chanson de Georges Brassens, « Le temps ne fait rien à l'affaire ». Je rajouterais « Quand on est con, on est con ». Et pas uniquement au titre, mais également à la façon dont tu joues de la guitare sur ce morceau, la pompe que l'on retrouvait chez le C'est Toi. Brassens à la sauce reggae, il fallait y penser, je me trompe?
Alors pas tout à fait. T'es dans cette live, en plus, on reprend un morceau de Brassens que j'aime beaucoup et qui a bercé pas mal de moments, évidemment, comme beaucoup de monde. Donc voilà, non, il y avait une idée, effectivement, de, à la fois ska et swing manouche, et aussi... ouverture dans le reggae, on est en plein dedans. Et puis voilà, c'est une musique qui correspondait bien aussi pour pouvoir exprimer des choses qui sont profondes et légères à la fois, mais sur un texte plutôt sur une musique plutôt entraînante. Ouais.
Alors la guitare et les percussions ont un rôle bien plus important chez toi que chez un artiste reggae traditionnel. Le mot variété pourrait-il faire partie de ton vocabulaire musical?
Non, pas du tout. Pas du tout, mais le mot universel plutôt, je préfère. C'est vrai, je le disais tout à l'heure, on s'adresse à une musique généraliste. Moi, je le vois dans les concerts, je le vois après les concerts, ou je le vois sur les gens qui viennent acheter des disques. J'ai autant des dames de 70 ans que des jeunes de 12 ans qui viennent acheter des disques. Donc l'objectif était un peu là de pas cloisonner, de pas faire de cloisonnement d'esthétique, mais de pouvoir parler aussi un petit peu à tout le monde, s'adresser, toucher les cœurs, les oreilles et de d'un petit peu tout le monde, et pas seulement de sectoriser dans pour les aficionados de reggae, bien qu'ils soient les bienvenus, évidemment.
Ouais. Alors, la scène est bien évidemment un moment très important pour toi. En plus, tu y as fait des rencontres qui t'ont marqué. Hein, je pense notamment celle avec Tiken Jah Fakoly. Tu as fait sa première partie au Transborder de Villeurbanne il y a peu. Ça t'a marqué tout particulièrement, celle-là, cette rencontre?
Bah, c'est des rencontres, bien sûr, qui marquent. Tikenja, j'ai eu la chance de jouer 3 fois avec. C'est un grand bonhomme, au-delà de sa taille, par son humanité, qui reste fidèle à lui-même, qui défend quelque chose de vrai et de sincère, qui dénonce les relations France-Afrique sur ses concerts et qui entame de vraies actions à travers l'Afrique pour pouvoir rendre les gens indépendants, soit par des moyens, soit en équipant tout un village de motos, de mobilettes, soit en faisant des actions diverses par le biais de puits, par le biais d'économies mises en place. Donc oui, c'est un grand bonhomme effectivement qui marque beaucoup les esprits, en plus du fait d'être un vrai coup de promotion pour nous, parce qu'on profite d'une salle pleine, parce qu'on profite de sa communication, et que ça nous permet aussi d'avancer et d'apporter de la crédibilité au projet, bien sûr.
Ouais. Alors tu vas me dire si je me trompe, hein. En 2004, on t'a retrouvé non pas sur une scène, mais sur un écran de cinéma, c'est ça
vrai. Hein, puisque je vois que tu as été tes recherches.
Puisque, oui, bah, avec ton ami, c'est plus simple. Puisque tu joues le rôle de Adjupa dans le film de Bertrand Van Effanter, Tout pour l'oseille.
Oui, c'est ça.
Alors, comment as-tu attiré dans cette émar devant la caméra?
Alors, ça s'est fait par concours de circonstances. Il se trouve qu'à Lyon, directrice de casting pour ce film-là était à la recherche d'un Indien qui passait devant les caméras et qui avait un peu l'habitude de la scène, etc. J'ai passé le casting, ça a fonctionné, alors j'y suis allé sans pour autant y croire. Et puis je me suis retrouvé avec Sylvie Testu, Patrick Braudet, sur le tournage pendant 3 jours, et c'était plutôt intéressant et très instructif. Je suis toujours friand de nouvelles expériences, en plus du fait de la nécessité du métier d'intermittent du spectacle, où effectivement on est obligé de cumuler plus de choses pour pouvoir arriver à renouveler notre statut et à conserver notre métier qui est remis en cause chaque année. Et donc voilà, tu vois, j'ai fait du cinéma effectivement par ce biais-là.
Ouais. Il y a des points communs entre jouer sur scène et jouer devant une caméra?
C'est deux métiers bien différents, mais effectivement il y a des choses qui se retrouvent dans les regards, dans la position, dans la manière de se positionner par rapport aux lumières, effectivement, c'est le point commun, ouais.
Ouais. Être acteur, t'as plu, j'imagine?
Oui, c'était intéressant. Il reste beaucoup à découvrir, mais mon métier reste vraiment la scène et la communion avec le public, indéniablement.
Ouais. Eh ben, merci, Sonny, d'avoir accepté l'invitation de Tropic FM.
Avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir accueilli. Merci de soutenir les artistes en développement, parce qu'il n'est pas tout le temps évident pour nous de pouvoir passer sur les ondes. Alors merci pour le travail que vous faites. Et puis en espérant vous voir bientôt à un concert.
Alors, on va d'abord rappeler que ton premier album sous ton nom de scène, Le Temps fait son affaire, est sorti depuis le 15 juin 2012. On peut se procurer où un peu partout?
Fnac, Virgin, Leclerc, Internet, Deezer, Amazon, iTunes, j'en passe des meilleurs. Fnac.com par exemple, il est livré en 48 heures si vous n'avez pas de magasin à proximité. Et puis, bien sûr, sur les concerts, j'insiste, on peut pas arrêter le téléchargement, bien sûr, mais en tout cas, c'est sur scène que ça prend son ampleur. Téléchargez pour découvrir si vous en avez vraiment pas d'autres possibilités, mais venez découvrir sur scène et acheter le CD, avoir le produit, c'est quand même mieux, d'autant plus que ça nous aide, nous aussi, à avancer.
Ouais, tu parles de scène, le plus important pour nous. Tu seras en concert à côté de chez toi au festival En été côté Saône à Villefranche-sur-Saône le vendredi 13 juillet 2012, par exemple.
C'est ça, ce vendredi-là, juste après le feu d'artifice, et ça va être un très très gros show, donc venez partager avec nous, et vous allez voir que tout ce qu'on vient de dire, ça se concrétise sur scène avec une équipe qui est vraiment formidable.
Ouais. Eh bien, Sonny, bonne continuation.
Merci à toi, et à très très bientôt.
Ok, bon concert, et bientôt sur Tropic FM.
Merci, salut.
Au revoir.
Tropic FM.